Bonsoir. Célébration hier lundi 1er mai de la Journée internationale du travail en RDC. L'intersyndicale du Congo réclame l'amélioration des conditions des travailleurs tant du secteur public que privé. Il plaide également pour la restauration du cadre de dialogue entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale, ainsi que la tenue d'un conseil national extraordinaire pour recadrer le SMIG. Quelle lecture faire de ces revendications? C'est la question du débat et nous en parlons avec Guy Koukou Guédila. Il est président de la Confédération démocratique du travail CDT en sigle et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Bonsoir, monsieur Guy Koukou Guédila.
Bonsoir, Guy Mathès.
Fabien Boko, il est conseiller juridique du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Bonsoir, monsieur Fabien Boko.
Bonsoir, monsieur le journaliste.
Et Polydor Tangeli, il est analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Il est aussi secrétaire exécutif du groupe Mossala. Bonsoir, Polydor Tangeli.
Bonsoir, Guy.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le monde entier a célébré la Journée internationale du travail ce lundi sous le thème « Construire l'avenir avec un travail décent ». C'était une occasion en RDC pour l'intersyndicale de faire un plaidoyer en vue d'améliorer les conditions sociales des travailleurs. Mais comment la fête du travail a-t-elle été vécue à travers les pays? Berry Franklin Luchaka nous dresse le tableau.
D'une manière générale, cette fête du travail a été commémorée lundi de manière diverse. À Kinshasa, les travailleurs se sont retrouvés devant le Premier ministre sortant, Sami Badibanga. Pour les uns, c'était pour défiler, mais pour les autres, il s'agissait d'un simple rassemblement. Il n'y avait pas de raison pour aller défiler devant les autorités politico-administratives comme si on faisait de la légende, a déclaré Guy Koukou, le coordonnateur de l'intersyndicale du Congo, qui précise que c'était un rassemblement des travailleurs et non un défilé à Kinshasa. Selon lui, ce qui importe, ce sont les engagements que les uns et les autres doivent faire. Dans son plaidoyer, Guy Koukou soutient également la restauration du cadre de dialogue entre le gouvernement et l'intersyndicale nationale, ainsi que la tenue d'un conseil extraordinaire pour recadrer le SMIG. À Kisangani, dans la province de la Tchopo, le président provincial de l'intersyndicale du Congo a relevé que, malgré la bancarisation des salaires des agents et fonctionnaires de l'État, le salaire n'assure pas le bien-être et son pouvoir d'achat achat dérisoire ne couvre pas les deux bouts du mois. Au Kasaï oriental, l'intersyndicale locale a peint un tableau sombre de la situation des travailleurs, surtout dans les mines et dans les secteurs informels. Le président provincial de cette structure affirme que si certaines entreprises se conforment aux exigences de la loi sociale, d'autres par contre préfèrent la violer, exposant les travailleurs à des dangers quant à leur sécurité physique, sociale et alimentaire. Il est vrai que le travail ennoblit l'homme. Mais lorsque ce dernier accumule plusieurs mois de retard dans la satisfaction de ses besoins, le travail finit par le chosifier. C'est une citation que je referme du président provincial de cette structure.
Merci Berry Franklin Luchaka, Guy Koukou Guédila. Je rappelle que vous êtes le président de la Confédération démocratique du travail CDT en sigle et coordonnateur de l'intersyndicale nationale du Congo. Le monde a célébré cette journée dédiée aux travailleurs. Et en RDC, quel est le sens que vous donnez à cette journée?
Merci beaucoup. En RDC, nous avions pris cette journée comme une journée où il fallait tout simplement décrier notre misère, rappeler aux autorités ce qui se passe, cette indifférence, cette insouciance par rapport à la misère sociale, par rapport à la destruction du tissu économique, par rapport à l'absence quasi totale de l'emploi. L'emploi disparaît sous les yeux de tout le monde et il n'y a aucun effort qui s'est fait pour que nous puissions récupérer la situation et revenir dans les structures de production.
Oui, vous en avez profité, n'est-ce pas, pour décrier votre misère, vous, fonctionnaire de l'État. Et vous vous êtes retrouvé une fois de plus sur le boulevard Triomphal, autour du Premier ministre, à qui vous avez remis votre cahier des charges, ce qui devient une habitude. Mais quelles sont les revendications qui sont contenues, n'est-ce pas, dans ces cahiers des charges?
Oui, d'abord, ce n'est pas une habitude, c'est une tradition, ça doit se passer comme ça. L'essentiel dans ces cahiers des charges, il y a un, nous avons rendu la nécessité de revoir le SMIG. Le SMIG, c'est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Ça signifie que dans tous les pays du monde, si vous êtes un investisseur, un opérateur économique, vous voulez investir, on va vous dire dans ces pays, si vous venez, voici les salaires que vous devez payer, le minimum que vous devez payer à un travailleur que vous allez engager. Et ce salaire-là tient compte du minimum vital, c'est-à-dire ce que nous appelons le panier de la ménagère. C'est quelque chose qui vous permet à acheter, à manger du 1er au 30. Or, dans notre pays, cela ne se fait pas et le salaire a perdu cette notion-là parce que le salaire a un caractère, alimentaire. On travaille pour à manger, pour se vêtir et ainsi de suite.
À part la question sur le SMIG?
À part le SMIG, il y avait aussi la question sur, les conditions de travail. Vous savez, par exemple, la sous-traitance dans notre pays. Beaucoup d'opérateurs sont venus et ont transformé leurs entreprises en des entreprises de sous-traitance. Ils disent qu'ils ont des sous-traitants, mais en réalité, ces sous-traitants n'ont rien à faire. Ce sont comme des commissionnaires des emplois au sein de cette entreprise-là et ça chosifie. Les travailleurs travaillent du matin au soir, de lundi à dimanche, du 1er au 30, de janvier à décembre, sans congé, sans soins médicaux. Et vraiment, ils sont dans un état où, après 5 ans, les gens deviennent comme des loques humains, et ce n'est pas normal. Troisième point que nous avons soulevé, c'est le manque de dialogue social. Dans tous les pays du monde, il y a des structures pour prévenir les conflits. Un gouvernement n'attend pas qu'il y ait une grève pour aller brimer, pour aller chercher des boucs émissaires ou chercher des personnes qui sont à la base. Non. Dans le monde moderne, actuellement, il y a ce qu'on appelle prévention des conflits. On met des structures en place pour discuter, prévenir, pour éviter toutes ces choses-là. Dans notre pays, la structure existait, mais le Premier ministre Matata Ponyo, à son accession, il a rayé carrément de manière unilatérale, alors que c'est une structure qui a été prise sur la tripartite, c'est-à-dire les travailleurs, les employeurs et les gouvernements s'entendent pour supprimer ou pour mettre en place une telle structure.
Voilà, on ne va pas évoquer toutes les revendications. Oui. Vous avez parlé de la nécessité de revoir le SMIG. Vous avez parlé de la nécessité, n'est-ce pas, de solutionner cette question de la sous-traitance. Et puis, la restauration du dialogue social. Quelle a été la réponse du Premier ministre?
Bon, la réponse, c'est le ministre du Travail, le ministre d'État, le ministre du Travail qui a répondu à cette question. Il a dit, pour le dialogue social, ils sont en train de travailler pour arriver à ça, ils sont d'accord. Pour le SMIG aussi, il l'a dit que d'ici là, on doit aller vers ces conseils-là pour essayer d'examiner. Même certains employeurs aussi sont d'accord. Je ne cite pas la structure parce qu'elle n'est pas ici, mais ils sont en tout cas d'accord que, parce que nous avons fait, vous vous souvenez, une grève et les 5, les 6, et nous avions arrêté parce qu'on a signé un protocole d'accord, ils ont accepté de négocier. Mais si cet accord-là ne sont pas exécutés, nous serons obligés de reprendre la grève parce qu'elle a été tout simplement suspendue.
Vous avez exigé un SMIG de 15 dollars par jour, ce qui n'est pas impossible pour un pays comme la RDC. Mais la situation actuelle de certaines entreprises qui font face notamment à une certaine fiscalité à outrance, en fait, ces entreprises font face à un climat des affaires qui n'est pas du tout favorable. Et vous espérez voir une telle demande être prise en compte dans ces contextes?
Oui, tout à fait. Vous avez dit que ce n'est pas impossible. Les possibilités existent, sauf que l'État a mis certains mécanismes qui empêchent non seulement les entreprises à honorer ses devoirs, parce que l'État ne va pas aller percevoir des taxes si l'entreprise n'existe pas. L'entreprise n'existera pas si les travailleurs ne travaillent, ne sont pas motivés et l'entreprise va se détruire. Deuxièmement, qui va soutenir la production? Ce sont les travailleurs, parce qu'on produit pour vendre. Qui va acheter? C'est les travailleurs. Parce qu'il y a un système, dans l'économie, il y a un système de cercle vicieux. Vous vendez et puis vous achetez, il y a un acheteur à côté. Or, les travailleurs doivent être les premiers acheteurs, ceux qui consomment. La consommation ne peut être lancée, la production est lancée lorsqu'il y a la consommation. Et l'état actuel des choses, il n'y a pas de consommateurs avérés parce que peu de gens ont les moyens pour acheter.
Guy Koukou, que répondez-vous à ceux qui pensent que c'est la énième revendication étant étant donné que toutes ces revendications ne sont jamais prises en compte par les gouvernants, il faut plutôt envisager une autre approche, une approche efficace, une approche contraignante.
Tout à fait, nous sommes d'accord avec tous ceux qui pensent de cette façon et nous nous sommes rendus compte, c'est pourquoi je vous ai dit, pour votre information, M. Guimaté, c'est la première fois que les syndicats ont lancé une grève générale dans ce pays. C'est la toute première fois depuis 20 ans. Donc, même avant 20 ans, ça n'a pas existé. Et si, cette fois-ci, ça ne sera pas comme avant, si les gouvernements n'acceptent pas, les employés n'acceptent pas, les travailleurs vont déposer, nous allons gréver, nous devons maintenant aller dans le sens de la Constitution, défendre nos droits. On ne va pas se laisser faire.
Merci Fabien Bocco, conseiller juridique du ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance Sociale. Comment vous réagissez aux revendications contenues dans les cahiers des charges des syndicalistes, comme par exemple quand ils demandent de recadrer le SMIC du secteur privé et les barèmes salariales pour les agents et fonctionnaires de l'État?
Merci beaucoup, M. Guimaté, de la parole que vous m'accordez. Je commencerai de prime abord par recadrer certaines choses avant de revenir sur la question que vous avez posée. La journée du 1er mai, c'est une journée mondiale qui commémore la fête du travail. Cela a été fait partout dans le monde entier. Ce n'était pas l'exclusivité de la République démocratique du Congo. Ce qui importe, ce n'est pas le format par lequel on commémore la journée, mais c'est plutôt l'expression de ce que les travailleurs portent aux autorités qui sont les décideurs, qui sont appelés à prendre des mesures qui tendent à améliorer leurs conditions de travail. Chez nous, en République démocratique du Congo, le format qui a été convenu, c'est les rassemblements, comme ça a été le cas hier. Vous avez vu partout ailleurs en France, où on a vu qu'il y avait des marches à travers le monde. Cela n'est pas un problème particulier. Mais pour revenir sur la question qui a été soulevée par M. Guy Koukou, le coordonnateur de l'intersyndical, parlant du SMIC, je pense que cette question est une question récurrente, c'est vrai, mais elle a déjà trouvé un début de solution au moment où il a été institué par l'ordonnance présidentielle numéro 08040 du 30 avril 2008, qui avait institué le SMIC avec un taux journalier estimé à l'époque à 3 $, qui était l'équivalent environ des 1680 francs congolais. Je passe sur les contrats du président de l'intersyndical et les différents éléments à notre disposition. Et il s'est avéré que ceci a eu pour exigence la nécessité pour le gouvernement de répondre tant soit peu aux préoccupations de la population, de la masse laborieuse, parce qu'on ne peut pas considérer que quand on gère un État, en tant que gouvernement, qu'on soit insensible aux préoccupations qui sont soulevées par les travailleurs, qui sont, eux, à la base de la production des richesses. Ainsi, donc, avait été mis sur pied un cadre de concertation autour du Conseil national du travail qui a débouché à la décision qui était prise de manière à ce que ces SMIC qui étaient trouvés les 3,5 $ soient mis en application. Il y a eu des arrêtés d'application qui sont des actes réglementaires qui étaient pris en application de ces SMIC. Vous pouvez vous en rendre compte que les 1680 francs congolais, qui étaient l'équivalent de 3 $, n'avaient pas été d'application immédiatement. Il a été appliqué sous deux tranches. Une première tranche de 1120 francs congolais, et les restes devaient l'être à partir du mois d'avril 2009. Alors, de manière à ce qu'on arrive à une totalité de 1680. Donc, ça a été fait à la suite d'une concertation tripartite entre les employeurs, l'État, ainsi que les travailleurs représentés par leurs délégués syndicaux. C'est parce que ça pose un problème qui n'est pas forcément du gouvernement, mais un problème de l'environnement socio-économique et même socio-politique dans son ensemble. Parce qu'une entreprise qui ne produit pas suffisamment, qui ne crée pas suffisamment de richesses, on ne peut pas les contraindre directement à faire appliquer un SMIC qui a été traité, alors qu'il sera difficile pour elle de pouvoir le soutenir. D'où la nécessité d'un dialogue. On ne peut pas construire, M. Guimaté, dans un environnement comme le nôtre, avec des mesures qui écartent qui ne privilégient pas les dialogues sociaux, qui par ailleurs est l'élément déterminant qui promeut le développement, qui promeut la solution aux problèmes, qui promet naturellement les solutions les plus efficaces autour desquels toutes les parties peuvent s'accorder. Je pense que la revendication autour du SMIG a été présentée par l'intersyndicat dans son cahier des charges. Le gouvernement a pris note et a promis, mais ce coucou l'a reconnu lui-même, a promis effectivement que dans les jours à venir, il sera mis sur pied un dispositif pour la convocation d'une session extraordinaire du Conseil national du travail. Bon, il a été prévu initialement que ça soit fait au mois d'avril, mais pour des raisons d'impondérables de l'actualité, ça n'a pas permis à ce que le gouvernement se décide à ce sujet. Laissez-moi finir, parce que c'est très important, et ceci a été convenu entre l'intersyndical et le gouvernement à la suite d'un protocole d'accord conclu consensuellement en date du 6 avril 2017.
Mais ça va bien.
Oui, oui.
Écoutez, vous avez encore la parole. Hein. Et, oui. En fait, il n'y avait pas que le SMIG qui préoccupe, n'est-ce pas, les syndicalistes. On a évoqué aussi les barèmes salariales, n'est-ce pas, des agents et fonctionnaires de l'État. Est-ce que vous avez une réponse à apporter par rapport à cette revendication?
Oui, mais les réponses apportées à la revendication en ce qui concerne le barème des agents et fonctionnaires de l'État trouve naturellement sa réponse aussi dans le mécanisme des concertations qui ont été mises en place par le gouvernement avec l'intersyndical également, qui sont déjà en discussion pour voir dans quelle mesure il faudrait améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires de l'État également, parce qu'ils participent à la richesse, à la production de richesse de notre pays. Il faut nécessairement qu'on intègre cette donne pour arriver à répondre aux préoccupations qui sont posées. Et je pense que ceci rentre dans les thèmes qui a été, encore une fois, mis en selle, construire l'avenir avec le travail décent. Parce qu'un travail décent englobe un certain nombre de paramètres. Un travail décent, c'est faire en sorte qu'un un fonctionnaire ou un travailleur ait un revenu qui est décent, merci, qui lui permette de faire face à toutes les charges sociales. M. Koukou l'a dit, les salaires ont un caractère alimentaire, tout le monde le convient. Le gouvernement en fait une préoccupation, raison pour laquelle il s'est inscrit dans cette dynamique qui fait en sorte que dans les jours à venir, avec le mécanisme des concertations et des dialogues en vue, qu'on arrive à trouver une solution à ce problème.
Merci,
le
monsieur...
travail décent, c'est aussi envisager la possibilité d'offrir à un travailleur environnement
et un cadre sain. On a compris que vous allez, n'est-ce pas, réactiver ces mécanismes des concertations. Polydor Tangeli, analyste des questions sociales et expert en matière du travail. Vous êtes aussi secrétaire exécutif du groupe Mossala. Journée internationale du travail à l'occasion de laquelle les syndicalistes ont déposé leur énième cahier des charges, ce qui est devenu une tradition, comme l'a dit Monsieur Guy Koukou. Comment vous analysez le tableau sombre du travail en RDC?
Merci beaucoup. Le tableau sombre du monde du travail en République démocratique du Congo part déjà du décor qui est planté lors des festivités du 1er mai. Le format et le contenu des échanges. Au plan du format, je crois partir de défilé vers un rassemblement fait filtrer quelques inquiétudes, quelques questionnements sur la volonté de voir les choses se faire de cette manière-là. Puisqu'au fait, lorsqu'il s'agit d'un défilé, le message est autre que lorsqu'il s'agit d'un rassemblement. J'aurais bien voulu que le représentant du gouvernement explicite les réels motifs de cette volonté. Je crains qu'il puisse s'agir des questions liées aux contraintes financières. Mais, à mon humble avis...
Est-ce que l'initiative est venue du gouvernement ou des syndicalistes?
Bon, Guy Koukou est là, il pourra répondre à cette question. Mais cependant, ça...
Donc vous estimez que déjà, du point de vue de la forme, les messages ne sont pas...
Exactement. Voilà. Et nous y avons été, il fallait attendre les points de vue des différents travailleurs par rapport au format. Certains n'ont même pas voulu y être. Donc ça filtre quelque chose, alors que c'est un rendez-vous de donner et de recevoir. C'est un rendez-vous, c'est une festivité en réalité.
Ça c'est sur le point
du format.
Oui, du format, oui.
Et le fond? Le monde du travail aujourd'hui nous pouvons le considérer comme une situation qui à l'image d'un dialogue de sourds. Pourquoi? Déjà, on l'a avoué, le fait qu'il n'y a pas le cadre de concertation permanente, comme l'a dit M. Guy Koukou, qui a la valeur de prévenir les différents conflits sociaux qui peuvent advenir dans le monde du travail. L'absence d'un pareil cadre symbolise déjà la fragilité. Voilà comment je décris la situation du monde du travail.
Est-ce que cela peut à lui seul expliquer le fait que les revendications des travailleurs qui sont, n'est-ce pas, exprimées depuis des années ne sont jamais prises en compte?
Mais exactement, puisque là nous sommes devant une situation, comme je disais, fragile, par le fait de l'absence d'un cadre permanent de dialogue social. La situation est unipolarisée. Elle est unipolarisée du fait que, si on fait une analyse rétrospective, on constate qu'il y a la récurrence des revendications qui sont suivies de l'expression des bonnes intentions, d'autre part. Et si nous essayons d'évaluer le niveau de recommandations exprimé chaque année, nous pensons que le niveau d'exécution est très faible, en dessous même de 30%. Pourquoi? Puisque la situation est unipolarisée et c'est un problème de communication. Le dialogue est régi par les règles de communication. Celui qui émet des revendications est perçu d'une manière telle que celui qui doit donner des réponses à ces revendications le donne à son gré.
Pourtant, le ministre a assuré que le gouvernement ne cesse de fournir d'énormes efforts pour assurer l'amélioration des conditions de travail, du travail de la masse laborieuse.
Exactement, c'est une intention, comme je l'ai dit. C'est une intention. Donc, ici, on a évoqué le cadre d'approche. Je crois que nos syndicats doivent s'autocritiquer, poser un diagnostic pour comprendre pourquoi la réponse aux revendications, ou si je peux mieux le dire, le niveau d'exécution des revendications de la part de l'interlocuteur est faible. Et on a proposé ici une approche contraignante à travers des grèves, tout ça, mais nous savons où finissent les grèves sans qu'il y ait un changement tangible dans la vie du travailleur. Je crois l'approche ici pouvait être une approche participative, où nous avons des syndicats de développement qui, plutôt d'attendre le 1er mai pour présenter des revendications, essayent de créer une dynamique interne au sein même de la masse laborieuse, notamment dans des activités de socialisation, à comprendre qu'un capital humain au sein d'une entreprise est une unité de production qui influe sur les salaires, qui influe sur les salaires à venir. Et parler encore de la situation du monde du travail, revendiquer les SMIG jusqu'à proposer les $15, bon, je me dis, comme nous l'avons toujours dit, partir de ce qui a été proposé en 2008, sans des études vraiment réalistes, j'ose croire que le $15 proposé puisse être encore illusoire et qu'une année ou deux ans après, on revienne encore à revendiquer une révision ou un recadrage.
D'abord, par rapport à l'approche participative, comme vous venez de les préconiser, vous pensez que cette approche pourrait être efficace dès lors que, en face, l'interlocuteur semble n'est pas écouté ce que les syndicalistes disent?
Bon, au fait, ici, il y a un problème tripartite. Il y a les syndicats qui ont avec les travailleurs, il y a le patronat et il y a le gouvernement. Je pense pour un pays comme le Congo, il faut une forte complicité entre le travailleur, la masse laborieuse et le patronat en vue d'amener le banc gouvernemental à
poser des actions en faveur des deux parties, plutôt que d'avoir une image d'un monde du travail à la rescousse du banc gouvernemental.
Merci, Monsieur Guy Koukou. Il y a une réflexion à laquelle vous allez réagir. Elle vient de Bukavu, au sud Kivu.
Le premier mot doit être une journée internationale du travail, mais la RDC et d'autres pays qui se croient aussi dans le même système que la RDC. Cette journée était nationale, elle serait remplacée par la journée nationale des chômeurs, car les travailleurs n'existent presque pas en RDC. D'autant plus que les quelques 5% des Congolais qui travaillent appellent leur soi-disant salaire SIDA, qui signifie salaire insignifiable, difficilement acquis. Les terres syndicales existent des noms politisés et corruptifs. C'est une mascarade, sa déclaration. Il doit plutôt initier des actions concrètes et non se limiter chaque année à une déclaration qui reste sans effet.
Monsieur Guy Koukou.
Oui, merci. Non, je pense que c'est, vous avez compris, c'est un cri de détresse. C'est quelqu'un qui exprime vraiment l'émotion lui-même. C'est la déception que nous avons, nous tous. En réalité, il a raison. Parce qu'il pense que les syndicats ne rendent pas ou n'obtiennent pas les résultats qu'il faut. Ça, c'est vrai. Il juge les syndicats, mais je pense que Polydor l'a dit. Et nous avons en face, le monde est moderne maintenant. Les approches de confrontation, en principe, n'existent plus. Dans beaucoup de pays, quand vous allez, les pays émergents dont on parle, ce sont des pays où les travailleurs sont considérés comme des actionnaires dans les entreprises. Et où on ne vient pas pour se battre, mais l'approche dans notre pays est restée l'approche un peu colonialiste. L'État a le rôle de brimer. L'État doit s'imposer. C'est nous, moi, l'État. J'ai dit, je ne fais pas, je vais. Or, ce n'est pas ça.
L'État n'a pas de considération vis-à-vis des travailleurs.
Il n'a pas de considération et du reste, l'État est limité. Il peut aussi avoir la volonté, mais il n'a pas... L'État, notre pays, n'a pas l'argent, n'a pas les moyens. Les moyens, maintenant, c'est vers les opérateurs économiques, c'est vers des partenaires. Mais c'est aussi avec la complicité, comme quelqu'un l'a dit ici, de notre ingéniosité. Le travailleur est un capital, le travail est un capital. Il n'y a pas que l'argent. Mais apparemment, notre gouvernement n'investit pas en ça, ne compte pas sur ça. Notre gouvernement, excusez-moi aussi le terme, est assez paresseux. Ils sont regardez la modicité du budget qu'on nous présente. Ils comptent sur quoi? Sur les ramassages, collecter les impôts sur ce qui existe, c'est-à-dire les mines. Dès que les mines tremblent là-bas, et puis on dit non, il faut revoir à la baisse. Puis, est-ce qu'il y a de l'argent qui est dans les mines? Non. L'agriculture, cette terre ici, il y a des pays comme le Japon.
Et donc
comme
il faut diversifier l'économie congolaise.
Il faut diversifier, non? Et ne paye non, la loi du moindre effort. Où est-ce qu'il y a de plus d'argent? D'où? Quand on sait, on a pris, on ne sait plus voir, il faut même augmenter les taxes. Ils multiplient même les taxes. Alors que les entreprises sont devenues trop petites, ils multiplient les taxes, disant alors qu'ailleurs, il faut augmenter plutôt la base. La base, c'est quoi? C'est là où on doit imposer. Lorsque dans une conjoncture comme celle-ci, où toutes les entreprises sont en train de fuir, en train de partir ailleurs, et même ce qui est plus grave, la politique du pays est telle que l'État ne contrôle absolument rien. Les gens exploitent les minéraux. Ici. Ils vont vendre à Washington, à New York, et l'argent est vendu est resté là-bas. L'argent qui est vendu, les minéraux du Congo, ici recensés au Congo, on a les statistiques, mais les caisses pour cet argent-là, c'est à New York, c'est aux États-Unis, c'est en France, et puis l'État ne fait absolument un État paresseux qui fait que seulement chercher où se trouve un peu d'argent, il augmente tous ses
donc,
actions.
Donc un État qui a failli à sa mission.
Justement.
Et vous avez suivi Polydor Tanguéli qui a semblé, n'est-ce pas, déplorer le fait de partir d'un défilé à un rassemblement parce qu'il estime que ce format-là ne permet pas au message d'être, n'est-ce pas, de circuler.
Non, voilà. Non, je dois informer mon co-débatteur. Non, c'est à l'initiative des syndicats. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est depuis l'époque de Mobutu, cette affaire-là de défiler. Ailleurs, c'est pas ça, les autorités. Comment les est-ce que vous avez déjà vu comment on défilait? On met les gens, les travailleurs s'alignent depuis 8 heures du matin. Ils sont là.
et puis on fait passer les uns les autres. Quand on arrive vers 12 heures, là, avec la chaleur, vous avez vu la chaleur d'hier, et souvent c'est comme ça. Et les policiers qu'on mettait là-bas pour faire passer, au début là des triomphales, entre Kassavubu et Triomphale, pour les faire passer, on commençait même à tapasser, à taper sur les travailleurs.
Et donc, vous pensez que cette façon-là dévalorise les travailleurs?
Ça, c'est notre journée, et ça devient une journée des policiers qui empêchaient même les gens. Les gens étaient blessés, les gens souffraient. Après, d'autres partaient même à l'hôpital, les jours même.
Nous avions dit que c'était un canal. Maintenant, à travers un rassemblement, est-ce que le message passe?
Oui, les rassemblements, c'est plus digne. Les gens viennent, tout le monde, on cherche une place assise. Et je pense que vous étiez là hier, pour ce qui est... Tout le monde était assis. Personne n'est indisposé. Donc, on ne danse pour personne. Mais ailleurs, les défilés, c'était quoi? Les autorités sont là, vous venez, les gens défilent, ils dansent, mais pour quel problème?
L'approche c'est notre participative.
Journée. C'est l'approche participative, l'approche des réflexions, l'approche des dignités, des partenariats. C'est cette approche-là que nous, on a voulu et qu'on a instaurée depuis trois ans.
Merci. Merci, M. Fabien Boko. Il y a une question qui vous est adressée, elle vient de Kisangani.
Les Zacharie Kingoum depuis la ville de Kisangani. La revendication des travailleurs sont légitimes et légales. Au jour d'aujourd'hui, les travailleurs congolais sont les plus mal payés au monde. Avec la dépréciation des femmes congolais, leur galère est arrivée au zénith à telle enseigne qu'un salarié congolais est incapable de s'acheter même une paire de chaussures. Au regard de la situation politique qui traverse le pays, je crains que les revendications ne sont prises en compte par les décideurs qui se focalisent sur le champ de conquête et conservation du pouvoir. Ainsi, pour qu'ils soient entendus, les travailleurs congolais doivent procéder par les méthodes de pression dont la grève continue.
Monsieur Fabien Moko, votre réaction?
Oui, je vous écoute. Bon, merci beaucoup, Monsieur Guimaté. Mais d'entrée de jeu, j'aimerais quand même porter à votre connaissance que les temps de parole apparemment n'est pas très bien distribué. Vous pouvez en tenir compte avec l'évolution de l'émission pour que nous soyons en mesure de répondre aux préoccupations qui soulèvent nos concitoyens.
Il n'y a pas de problème.
J'aimerais d'abord, avant de répondre à notre ami de Kisangani, faire comprendre à l'intersyndicale qui est représenté par M. Guy Koukou qu'il faut éviter de faire de l'amalgame. Quand on est face à l'opinion, nous devons débattre des questions beaucoup plus importantes que de sombrer dans une espèce d'activisme.
Qu'est-ce que vous appelez amalgame,
qui vous écarte de votre vocation en tant que représentant qui défend les intérêts des travailleurs. Il ne faut pas affirmer de manière gratuite que l'État n'a pas des considérations pour les travailleurs congolais, que l'État est paresseux et des déclarations qui sont gratuites, qui n'ont pas de fondement. Parce que l'État, dans son rôle, a comme pouvoir de mettre en place un dispositif législatif et réglementaire qui protège les travailleurs congolais. Au jour d'aujourd'hui dans notre pays, je crois, nous disposons des instruments de droit qui sont le plus avancés, le plus poussés en ce qui concerne la protection et la sécurité de l'intérêt des travailleurs congolais. Nous avons pour preuve l'existence du Code du travail, qui est là, qui est un Code du travail le plus humain et le plus avantageux pour les travailleurs congolais, en ce qu'il a prévu beaucoup de mécanismes qui sécurisent le travail, qui sécurisent les travailleurs, qui n'exposent pas à des mécanismes de flexibilité du contrat du travail, qui est par ailleurs l'acte par lequel les travailleurs trouvent la raison d'être et le droit qu'ils gagnent en contrepartie de ces prestations. Et on a renforcé le mécanisme de sécurité contre les licenciements abusifs. Et le renforcement des capacités de l'inspection générale du travail ne sont même plus à démontrer. Plus récemment, le chef de l'État a promulgué une loi 002 du 8 février 2017 qui détermine les principes fondamentaux relatifs à la mutualité. Le président de la République a promulgué également une loi récemment sur les mesures applicables à la sous-traitance dans les secteurs privés. Parce que tout à l'heure, j'ai entendu, on a parlé de la sous-traitance. Mais la sous-traitance dont a parlé M. Guy Koukou, dans la loi actuellement en vigueur qui a été promulguée par le président de la République, est récriminée, est érigée en infraction. Parce qu'il a été dit que la sous-traitance de la main-d'œuvre est proscrite et que toute entreprise qui s'aventurerait éventuellement à procéder à la sous-traitance selon le format qui était celle de la sous-entreprise, doit être reprouvée. Mais là aussi, nous avons un rôle de syndicaliste. Parce que dans chaque entreprise, la loi prévoit qu'il y ait organisation d'un syndicat. Quel rôle jouent ces syndicats-là dans ces entreprises? M. Polidor l'a soulevé tout à l'heure. Il faudrait que nous ayons un syndicat, je vais dire, de développement, qui participe à la productivité, qui participe à la création de la richesse au sein d'une entreprise. Et nous avons comme l'impression ici qu'on a des syndicats vindicatifs, des syndicats agressifs, qui ne trouvent comme posture de défendre les intérêts des travailleurs que des grèves générales, de violences, de brutalité. On a parlé des approches contraignantes, mais non. Sous d'autres cieux, les syndicalistes doivent prendre part, et ceci a été demandé tout à l'heure par l'intersyndical lors de leur déclaration d'hier, qui doit prendre part, participer aux différents organes de gestion des entreprises publiques, par exemple.
Mais c'est pas bien.
Parce que... Mais s'il vous plaît.
Mais c'est pas bien. Est-ce qu'on peut revenir au cadre juridique? Vous avez parlé d'un cadre législatif, mais que valent les textes qui ne sont pas appliqués?
Non, mais les textes sont appliqués, monsieur Guimaté. Le Code du travail dans notre pays est appliqué. Il a prévu une panoplie de dispositions que je ne pourrais pas citer ici, on ne peut pas les énumérer. La loi sur la sous-traitance est d'application à partir de l'année prochaine, en 2018. La loi sur les principes fondamentaux relatifs à la mutualité est déjà d'application dans notre pays. Non, ces textes-là sont d'application. Mais le gouvernement ne peut pas aller dans chaque entreprise pour essayer de scruter le mécanisme de fonctionnement de ces entreprises. La raison pour laquelle il a été mis en place des dispositions dans la loi qui prévoit l'érection de délégations syndicales. Et l'intersyndicale en tant que telle est un partenaire privilégié du gouvernement.
Monsieur Fabien, je vous redonne la parole.
On a parlé... S'il vous plaît.
Je vais vous redonner la parole, mais c'est pas bien. Polydor Sangeli, il y a une question qui vous adresse, elle vient de Kinshasa.
Justin Batu, à partir de Kinshasa. Aujourd'hui, parler de l'emploi en RDC est une moquerie au peuple congolais, particulièrement à la jeunesse. Pourquoi célébrer la journée du 1er mai dans un pays où le peuple est à plus de 80% au chômage? Il faut supprimer cette célébration même sur les calendriers de la RDC. Aucune politique ne rassure la création de l'emploi, moins encore l'amélioration des conditions sociales de quelques travailleurs. Faible politique de création d'emplois, dont la non-exploitation d'autres secteurs de création d'emplois, comme le tourisme, l'énergie, l'agriculture, les microfinances, etc. Le gouvernement s'est concentré seulement sur les secteurs miniers. Pourquoi? Il n'y a aucune diplomatie économique pour attirer les investisseurs et la promotion de l'entrepreneuriat. Le climat d'affaires n'est pas rassurant, ce qui décourage aux entrepreneurs de venir s'installer. Mieux vaut parler du partenariat durable pour concevoir un nouveau programme d'emploi et des salaires, au lieu de passer le temps dans les dialogues qui ne produiront rien.
Monsieur Polydor Tangeli.
En fait, ça me fait rire. Ouais, salut, monsieur Justin. Merci pour votre préoccupation. Mais cependant, on aurait aussi radié du calendrier la date du 30 juin, hein. À croire à ce qu'il dit. Non. Je pense que ce sont des journées de commémoration. Des journées qui doivent nous interpeller pour que nous puissions établir l'écart entre ce qui devait être fait et ce qui est fait. Voilà pourquoi je m'adresserai à M. Guy Koukou par rapport au format. Je crois que lorsqu'on on organise une festivité sous forme de défilé, on offre aux travailleurs l'opportunité de s'afficher, d'être dans sa peau de travailleur de telle entreprise, de telle autre, et de faire passer son message.
C'est une approche qui a été utilisée depuis plusieurs années. Quel impact est sur les conditions sociales des travailleurs?
Exactement. Peut-être qu'il fallait diagnostiquer les points positifs et les points négatifs, puisqu'au fait, le format d'hier a occasionné plutôt une démobilisation des travailleurs, jusqu'à émettre des critiques que je ne suis pas obligé d'en parler ici. Donc voilà un peu mon point de vue. Donc on ne peut pas éradiquer, comme dit M. Justin, c'est plutôt l'opportunité d'une remise en question, d'une autocritique pour voir, voilà, nous avons l'emploi comme un des chantiers. Et voilà le 1er mai, nous devons commémorer l'emploi. Nous nous reprochons de quoi? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'au 1er mai prochain, on ne revienne pas à produire des lamentations excessives? Voilà le message que je peux transmettre à l'heure. Mais cependant, j'avais quand même de la matière à produire par rapport aux représentants du gouvernement dans ces débats.
Monsieur Fabien Beaucoup.
Exactement.
Qui parle notamment du cadre législatif qui serait, selon lui, impeccable.
La valeur d'un gouvernement ne se résume pas à un arsenal de cadres juridiques.
faut-il encore savoir si ces cadres juridiques sont, ces cadres juridiques est appliqué par qui? Allez-y questionner les organes chargés d'application de cet arsenal juridique, notamment l'inspection générale du travail, l'administration du travail. Mais ils sont dans une faible fonctionnalité inimaginable qui fait que tout cet arsenal juridique, bien que modernisé, reste des documents dans les tables. Et puis Guy Koukou a soulevé la question liée à la politisation du monde d'emploi, où il y a des soutiens de tous bords qui viennent lorsqu'il s'agit de réglementer en matière du travail. J'espère que les inspecteurs du travail me suivent. Donc, là encore, il se pose un sérieux problème, d'où il y a un effort de remise en question de l'action gouvernementale dans le monde du travail. Et le message de la remise en question ne s'adressera pas seulement au gouvernement, mais aussi aux syndicats, comme nous l'avons dit, qu'il soit un syndicat de développement, un syndicat à une approche participative qui est acteur de la production et non juge de la production.
Et à votre avis, comment vous entrevoyez, n'est-ce pas, l'avenir du travail dans ces pays, en RDC?
L'avenir du travail passe par la restauration, comme l'a revendiqué les syndicats, du cadre de concertation permanent, le CPDS, pour que, avec un peu plus de bonne volonté et de bonnes intentions, on puisse mettre sur table de manière régulière, les problématiques liées à l'emploi. Il y a les conseils, mais qu'on restaure de manière régulière aussi les conseils nationaux du travail, qui étaient des opportunités comme ça de remise en question, plutôt que nous puissions participer à chaque année à un 1er mai des chapelets de recommandations suivis des chapelets de bonnes intentions.
Oui, M. Guy Koukou, comment vous entrevoyez l'avenir du travail en RDC? Vous venez de suivre Tanguely qui prône la restauration du cadre de concertation. Vous pensez que le seul fait de restaurer ces cadres de concertation suffit pour satisfaire aux revendications des travailleurs? Lorsque vous avez en face de vous des gens qui semblent ne pas être animés de bonne foi, qu'est-ce que vous faites, même oui, si vous vous concertez?
Merci, vous avez raison. Le seul fait de restaurer sans réelle volonté, comme on dit, une volonté politique. Parce que le tout, ce n'est pas de restaurer seulement. C'est dire, nous restaurons pourquoi? Quelle est la mission qu'on donne à ce cadre-là? Nous voulons faire quoi? Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Et tout à l'heure, quand je parlais du gouvernement un peu paresseux, vous avez suivi la réaction de M. Fabien qui parle de la
marge
et qui parle de l'activisme. Ils reviennent sur ça. C'est là d'hier, j'ai entendu ça, aujourd'hui encore. Mais c'est étonnant pour quelqu'un qui est un acteur social. Parce que le rôle du gouvernement, c'est innover. Alors, c'est lui qui crée les cadres.
En conclusion, parce que nous sommes à la fin de l'émission.
Pour le reste, moi, ce que je veux dire, nous, notre rôle, ce n'est pas de faire des grèves. Notre rôle, c'est de dialoguer. Mais lorsque on ne trouve pas des résultats, quand les gens sont... Les fonctionnaires attendent depuis plus de 30 ans. Merci. Ça n'arrive pas. Merci. Les travailleurs attendent. Un instant, je clôture. Donc, je crois, l'avenir du travail au Congo, c'est quoi? C'est se mettre ensemble. C'est créer des emplois. Créer des emplois comment? En créant, pas seulement des lois comme on a dit là. Les lois, ce sont des papiers. C'est sur papier. Les inspecteurs du travail n'inspectent plus.
Merci.
Ils n'ont pas d'outils de travail.
Merci. Monsieur Fabien Boko,
dans les entreprises.
Votre conclusion, nous sommes à la fin de l'émission.
Leur nombre est d'ailleurs.
On a compris, monsieur Guy Koukou.
Oui.
Fabien Boko, votre conclusion.
Pédagogique, mais je voudrais simplement vous dire que l'emploi, comme l'a dit monsieur Polydor, a été érigé en chantier par le président de la République. Et dans cet ordre d'idées, vous avez appris, c'est que le ministre a révélé hier à la Face du Monde, qu'il y a un programme qui a été exécuté par le ministère d'Emploi, du Travail et de Prévoyance Sociale, qui consiste à l'amélioration des compétences professionnelles des 10 000 jeunes diplômés.
Merci.
Le programme PED.
Merci.
Qui consiste dans une période d'exact.
Voilà, nous avons compris.
À pouvoir bénéficier de 2500.
Merci, nous avons compris. Monsieur Tanguely, votre conclusion.
Je pense qu'il y a un effort de recadrage, de beaucoup plus de volonté.
plutôt que d'éviter des initiatives qui ne sont essentiellement que des intentions.
Merci.
Donc, attendons.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à votre programme sur Radio Capi.